Alors, pour la petite histoire, j'ai trouvé cette vidéo il y a 2 jours. Puis je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous la montre parce que je la trouvais super drôle. Donc c'est une artiste qui s'appelle Nina Paley, je ne sais pas si je le prononce correctement. C'est un extrait d'un film d'animation qui va sortir bientôt qui s'appelle Cedar Masochism. Excusez pour mon super accent anglais. Et une femme assez intéressante, je ne vais pas vous en parler beaucoup, mais elle se bat principalement pour l'art public. Donc elle s'est permis d'animer plein de petites effigies de déesses de la fertilité ou autres, qui datent principalement du Proche-Orient ancien. Moi j'ai travaillé sur la Mésopotamie, toutes les statuettes que vous avez vues venaient pas spécialement de la Mésopotamie, mais quelques-unes oui, puis je peux pas vous dire que les femmes dansaient comme ça à cette époque-là, mais je trouvais ça quand même intéressant de faire une petite mise en mouvement. Donc j'ai fait mon mémoire sur la Mésopotamie. Et mon mémoire s'intitulait « Études anthropocosmogoniques des pratiques de mouvement en Mésopotamie ». Je vais pas vous en parler vraiment de mon mémoire. J'ai senti qu'ici j'avais la place pour peut-être plus vous parler de mon parcours en tant que femme qui m'a menée à faire ce mémoire-là. Je suis pas non plus bercée trop dans les études féministes, même s'il y a une posture au début, en tout cas dans mes intérêts de recherche, en tout cas il y a des questionnements féministes. Donc j'entrerai pas là-dedans non plus, parce que j'y connais rien. Et donc, les faits que je vais vous amener, qui sont propres à mon parcours, à mes expériences, je vous invite à prendre du recul par rapport à eux. Je vais pas entrer dans un énoncé de faits véridiques que vous pouvez prendre comme des vérités établies. Ce que je vous partageais, c'est propre à mon combat, à ma guérison, là, maintenant. Donc, je pense qu'à la base, l'envie d'aller travailler sur la Mésopotamie, c'est venu de différents malaises, d'un besoin de comprendre, puis peut-être un besoin de combattre aussi, d'aller chercher une espèce de légitimité scientifique, historique, cette espèce d'utopie qui existait, un monde où la place de la femme, du sexe, aurait pu être mieux que là, moi, maintenant, comment je le ressentais dans mon corps, dans ma vie. Au final, la Mésopotamie est loin d'être une époque parfaite, mais j'ai trouvé quelques archétypes qui faisaient du sens pour moi. Donc tout d'abord, c'est parti d'un inconfort vis-à-vis du corps. À moins que vous soyez du genre à travailler sur vos organes, comme je viens de vous le faire, il est possible que vous ayez tendance à considérer l'être humain comme un esprit dans un corps. Nous, en danse, on a tendance à voir ça un petit peu différemment et plutôt à considérer le tout comme un ensemble, un soma. Et cette conception du corps comme séparé de l'esprit, on la traîne avec nous depuis longtemps. Rapidement, il y a Platon qui le décrivait comme le tombeau de l'âme, où il y a Descartes qui dit « je pense, donc je suis ». Donc toujours, le corps est souvent situé, est souvent subordonné à l'esprit. Il est situé du côté de la chair, de la matière, de la déchéance, donc du temps. Puis, tu as certains chercheurs qui ont fait le lien dans les 2 derniers millénaires d'existence de notre société occidentale, qui ont fait le lien entre cette rupture corps-esprit dans notre conception ontologique de l'être avec la disparition du féminin sacré et aussi avec la répression de la sexualité. Comme un espèce de wrap-up, de tout ensemble a commencé à être réprimé. La première citation, donc c'est une chercheuse qui elle était plus en psychologie, Nancy Quartz Corbett. Donc, so, the church recognizes neither the attributes of the goddess nor the inherent sexual nature of women or men. Consequently, a chiasm between body and spirituality was maintained in religious teaching. J'amène ça parce que, contrairement à ma collègue avant, Bianca, qui parlait vraiment de notre société actuelle, moi je suis plus sur des symboles qui ont une influence sur nous, mais plus inconsciente. Encore une fois, peut-être que vous n'avez jamais ressenti ça avant. Donc, c'est comme si, ce qui me gênait, c'est que c'est comme si dans le monde occidental, depuis donc, notre ère judéo-chrétienne, il y avait un système binaire, hiérarchique, où il y en a un qui est nécessairement supérieur à l'autre. Celui qui est en haut, supérieur à celui qui est en bas. Donc l'esprit supérieur au corps. J'aime beaucoup cette citation de Nordera qui dit que si le masculin, avec limité, père, immobile, droit, lumineux, se place dans la série positive, le féminin, lui, se trouve toujours dans la série négative, avec illimité, un père en mouvement, courbe, obscur. Femmes et mouvements sont donc associés dans la négativité. C'est une chercheuse en danse aussi. Et donc, j'ai cherché un peu plus les archétypes féminins qui avaient pu m'influencer, me mener, par exemple, à faire du burlesque. Et donc, j'ai réalisé que les archétypes que j'avais... Moi, j'ai plus été éduquée avec le christianisme. Donc, j'avais Ève, la pécheresse, j'avais la Vierge Marie, la mère, mais vierge. Puis, au niveau des figures de danse, parce que moi, c'est mon art, j'ai remarqué que la danse était toujours associée à cette angoisse de la femme dont tu parlais un petit peu tantôt. La femme qui danse, c'est toujours la femme sorcière, la femme pécheresse ou la femme putain. Le féminin dansant est toujours associé à une forme de séduction sexuelle. Puis, si j'évoque rapidement des figures de femmes qui dansent, peut-être que vous ne les connaissez pas, peut-être que danseuse, oui, on a Salomé, la seule femme qui danse dans la Bible. Salomé, grâce ou à cause de sa danse, Jean-Baptiste a la tête coupée. On a les sorcières, le sabbat des sorcières, qui s'accouple dans des mouvements extatiques et de transe avec Satan. On a les ménades de Dionysos, assoiffées de sang, ivres. C'était un petit peu ça, les archétypes que j'avais de femmes qui dansent. Donc toujours du côté du démoniaque, finalement, puis du danger, de la mort. Birelle de Becker, aussi une chercheuse en danse, elle explique que l'animalité contenue dans le corps de la femme et exprimée par la liberté de mouvement dans la danse sera condamnée par l'Église chrétienne pendant des siècles, conférant à la danseuse un statut mixte de comédienne, de prostituée ou de sorcière. Je ne sais pas à quel point ça a pu m'influencer jeune, je ne sais pas à quel point ça a une influence inconsciente sur nous tous. Domenico Salva, c'est donc un prédicateur chrétien, qui disait que c'est toujours un danger de voir danser des femmes vaines et lascives, mais que le danger est encore plus grand de les voir danser et chanter, car c'est là qu'elles nous incitent au mal. Puis, en fait, moi, personnellement, je crois que j'aimais bien ça. Je pense que je trouvais une sorte de satisfaction provocatrice, un petit peu, de m'associer à ce côté profanateur-là. Je trouvais ça plus cool, en tout cas, que d'être du côté de l'immobilité pure et immaculée. Et puis, aujourd'hui, alors je vais en parler très vite, parce que t'en as beaucoup parlé, il y a encore cette dimension de corps féminin sexué, et puis ça est même devenu un objet mercantile, comme tu l'as super bien expliqué. Donc, on n'en est plus à se dire qu'une femme qui danse peut te diriger vers Satan, mais on a encore une vision plutôt négative de cette dimension sexuée-là. Puis d'ailleurs, en danse contemporaine, on n'a pas une vision très très belle des danses commerciales sexuées, au contraire. Plutôt tendance à rejeter ça parce que il n'y a pas l'élitisme contemporain, le concept qui va derrière. Moi, avec le burlesque, j'y échappe un petit peu parce que c'est comme si je me rapprochais du côté queer, donc revendication féminine, etc. Donc, j'en ai moins souffert vis-à-vis de la danse contemporaine parce que je fais les deux. Par contre, à chaque fois que je mentionne que je suis une danseuse burlesque, c'est comme si j'avais mis un éléphant dans la pièce. Ça veut dire que j'accepte cette forme d'objetisation sur mon corps. Je suis dans une forme de... C'est comme si j'assumais le fait que mon corps devient un objet au service d'une domination masculine. Ça rejoint tout ce que tu as expliqué avant. Un jour, j'ai lu le mémoire d'une de mes collègues en danse contemporaine, Jeanne Marquis, qui a travaillé sur l'hypersexualisation dans les vidéoclips. Et donc elle est vraiment dans une analyse du mouvement. Elle démontre comment tous les mouvements utilisés dans les vidéoclips sont dans une forme d'hypersexualisation. Et donc elle décrit cette culture, enfin Pierre Bouchard décrit cette culture dans laquelle on se retrouve comme une culture du rêve qui laisse croire aux fillettes que la séduction et l'affirmation sexuelle sont synonymes de pouvoir, qui non seulement leur fourniront l'approbation masculine, mais aussi les mèneront vers le succès. Mais la première fois que j'ai lu cette phrase, j'étais en colère. parce que je me disais, bon, ben moi, je me dessape devant un public, puis j'aime ça, puis j'ai l'impression que c'est une forme d'affirmation féministe. Ben, sais-tu, parce qu'en fait, je suis juste conditionnée sans m'en rendre compte depuis longtemps. J'ai pas de réponse, je vais juste partager mes questions. Bref, donc du coup, bah, je me suis dit, je vais aller voir le plus loin possible pour voir comment c'était avant notre conditionnement judéo-chrétien. Au final, il y avait d'autres conditionnements, mais sur le moment, c'est ça qui m'habitait. Et donc, je suis tombée sur la fameuse « La putain de Babylone ». Donc ça, c'est un extrait de l'Apocalypse. « Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, toute parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle avait dans la main une coupe d'or remplie d'abominations avec les impuretés de sa prostitution. » Il y avait sur son front un nom écrit, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostitutions et des abominations de la terre. Donc ça, c'est à la chute de Babylone, au moment où tous les cultes liés à la féminité ont été détruits. Puis la déesse que moi j'ai découvert, qui s'appelle Inanna, en Mésopotamie, elle découle, son culte s'est perduré jusqu'à Babylone. Mais moi je suis 2000 ans avant. On est vers moins 3000 à peu près, l'époque qui m'intéresse. Et donc j'ai découvert la déesse Inanna. Je ne vous la livre pas comme réponse à mes interrogations, plus pour venir s'ajouter un autre archétype à tous ceux qu'on a pu évoquer depuis qu'on a commencé. Et donc à l'époque de la Mésopotamie, Inanna, elle ne fait pas partie du panthéon, des dirigeants du panthéon, mais pourtant au fur et à mesure des mythes, elle va aller voler les tablettes de loi pour devenir la reine du ciel et de la terre. Elle va aussi aller aux enfers pour essayer de gouverner sur les deux. Elle est plutôt impatiente, puis volontaire, puis téméraire. J'aurais envie de dire ingouvernable, mais je n'ai pas rendu là encore ma réflexion. Et en fait, ce qui est beau, c'est que c'est la déesse de l'amour, mais c'est aussi la déesse de la guerre. Puis c'est la première fois, en tout cas moi, dans tout ce que je connais, qu'une déesse, que ce soit en grec, à Rome ou autre, incarne les deux. D'habitude, on a toujours l'amour, le mariage, la sexualité éventuellement pour les femmes, puis la guerre pour les hommes. Hein. Là, elle incarne les deux. Elle incarne autant l'amour que la vengeance, la fertilité, que la guerre, et puis aussi les catastrophes. Et elle a aussi le pouvoir d'associer les contraires. Donc c'est... Elle a aussi comme pouvoir de définir l'identité sexuelle de chacun. Et donc, en Mésopotamie, elle est la protectrice des travestis, des homosexuels et des eunuques et des castrats. Elle a 35 lieux de culte. Son temple, c'est Les Dames et ça signifie aussi bordel. Ses servantes sont des Karkides et ça désigne aussi prostituées. Et puis, il y a plein de cultes qui attestent la présence de rituels du mariage sacré, donc qui aurait été un rituel pour introniser le roi et qui se faisait avec une grande prêtresse, une prostituée sacrée, puisqu'elle devait s'accoupler avec le roi. Il y en a beaucoup en littérature ici, si j'ai bien compris, la mythologie sumérienne est magnifique. En tout cas, moi, je la trouve belle à lire. Rempli de très, très, très imagé. Donc ma vulve, la corne, le bateau du ciel est pleine d'ardeur, comme la jeune lune. Mes terres incultes sont en jachère, et pour moi, Inanna, qui labourera ma vulve? Qui ensemencera mon haut domaine? Qui labourera mon sol humide? Puis, il y en a beaucoup de la mythologie érotique comme ça, où Inanna appelle au sexe très fort, et où elle explique aussi comment il faut la satisfaire correctement. Au niveau de la danse, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que certains de ces officiants sont pris, je parlais d'associations de contraires, certains des danseurs qui représentent son culte sont vraiment pris dans ces contraires-là. Ils ont tendance donc à se travestir, soit des hommes portant des vêtements de femmes ou des femmes portant des vêtements d'hommes. Et ils sont aussi décrits comme étant et des artistes martiaux, et des guérisseurs ou des mages. Donc on ne sait pas trop si... ou des prostituées. Il y a comme une ambiguïté entre s'ils doivent faire couler le sang ou s'ils doivent faire l'amour, par exemple. Je mets juste un autre poème qui montre le côté plus terrible de Inanna. Donc, maîtresse au mets innombrable, lumière resplendissante, vraie femme chargée de splendeur, Sheridan et Duras, tel un dragon, tu as craché du venin sur le pays ennemi. Tes discours, tes grondements anéantissent les moissons, déluges, dévalant des montagnes, suprême dans le ciel et sur la terre, tu es leur Inanna, feu toujours attisé, pleuvant sur le pays, destructrice des pays ennemis, c'est à toi que la tempête doit sa force. Donc voilà un autre archétype d'une déesse qui a existé, qui était autant l'amour et la douceur que la guerre et la destruction. D'après Eliade, Mircea Eliade, qui a été mon cas théorique pour l'anthropocosmogonie, cette androgynie divine, pour lui, fait partie de la structure profonde de la divinité, c'est-à-dire à la fois bienveillante et terrible. Selon lui, c'est la base même du cosmos, cette tension entre vie et mort, intérieur, extérieur. Et il faut le voir sur un plan horizontal et non pas sur un plan vertical, incluant une dynamique de bien et de mal, par exemple. Donc, pouvoir de création, pouvoir de destruction, c'est tout ce qui fait partie de cette déesse-là. Je vous ai un peu livré de façon naïve et honnête ces recherches-là, ces différents archétypes. J'en viens à me poser la question du sacré. Il y a écrit qu'une création ingouvernable est essentiellement profanatrice. Je ne vous ai pas tant parlé de burlesque aujourd'hui, parce que moi, en ce moment, le burlesque, je suis moins dedans, j'en fais moins. Étrangement, j'ai remarqué, en lisant et en essayant de voir comment intégrer le burlesque à ma présentation, que dès le moment où j'ai perdu cette dimension de transgression, dès le moment où le burlesque est juste devenu une expression naturelle de moi, j'ai perdu un peu cet intérêt-là. Donc je me questionne, est-ce que l'ingouvernabilité se fait seulement dans la transgression? Est-ce que l'ingouvernabilité peut être sacrée? Est-ce que Inanna incarne cette dimension ingouvernable et sacrée? Parce qu'en même temps, le sacré, il y a deux manières de le voir. On le voit d'un point de vue sociétal, structurel. Donc dans ce cas, si l'ingouvernabilité est élevée au rang de sacré, ça veut dire qu'elle est nécessairement inscrite dans une structure ou dans des jeux de pouvoir qui permettent donc de la définir comme telle. Donc est-ce qu'elle reste ingouvernable? Je n'ai pas travaillé sur le sujet, j'ai hâte de tous vous écouter là-dessus. En tant que danseuse, on a un rapport au sacré qui est plus lié à notre expérience personnelle, je pense. Je travaille sur mes organes, par exemple. C'est peut-être un moment où je touche au sacré. Ça doit sûrement être un truc de danseur. Donc voilà, je pense que je vais rester. Il y a une dernière citation que je trouve peut-être intéressante. Ah ben là, vous avez une image d'Inanna. Andrea Digon qui dit: Dance is a way for the individual dancer to transcend the limits of the body and the earth through the use of the body and the earth. Donc bien sûr, j'étais dans des réflexions plus archétypales, plus symboliques, plus imagées. À voir comment tout ça réagit dans votre corps au fur et à mesure que je les exprimais. Je me questionne maintenant par rapport au burlesque parce que je réalise que me mettre à nu, décider de me déshabiller, de ne plus être otage de mon érotisme, c'était mon combat à un moment. Mais pourtant, je me demande, vu qu'il y a une valeur mercantile, est-ce que on peut encore parler d'ingouvernabilité, même si c'est ça qui l'avait initié à ce moment-là. Après, bon, tout ça, c'est des chemins personnels, puis chacun se guérit et combat comme il peut. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Petite incursion en Mésopotamie.